Janvier 1845. C'est à vous, riches, que ce livre s'adresse, puisqu'il est question des pauvres. Car leur cause est la vôtre. Dernièrement, au milieu de nous, dans Paris, au bruit des réjouissances voisines, un pauvre enfant est mort gelé, derrière une guérite. Le fait a été publié comme un simple accident. Il n'a étonné personne. S'il n'y avait que des douleurs exceptionnelles et solitaires à soulager, la charité y suffirait peut-être. Mais le mal a des causes aussi générales que profondes, et c'est par milliers qu'on les compte, ceux qui, parmi nous, sont en peine de leurs vêtements, de leur nourriture et de leur gîte. Comment cela est-il possible? Pourquoi au sein d'une civilisation tant vantée cet abaissement tragique et cette longue agonie de la moitié des humains? Quoi donc? Il y aurait un tel excès dans les souffrances de ceux qui n'ont pas, de telles haines dans les âmes et dans les profondeurs de la société, un si impétueux désir de révolte que prononcer le mot de fraternité serait une imprudence terrible et comme le signal de quelque nouvelle jacquerie. Non, qu'on se rassure, la violence n'est à redouter que là où la discussion n'est point permise. L'ordre n'a pas de meilleur bouclier que l'étude. N'ayant plus que quelques jours à vivre, Louis XI fut tout à coup saisi d'un immense effroi. Ses courtisans n'osaient plus prononcer devant lui ce mot terrible, ce mot inévitable, la mort. Lui-même, comme si pour éloigner la mort il eût suffi d'en nier les approches, il s'étudiait misérablement à faire briller dans son regard éteint les éclairs d'une joie factice. Il dissimulait sa pâleur. Il ne voulait point chanceler en marchant. Il disait à son médecin, « Mais voyez donc, jamais je ne me suis mieux porté. » Ainsi fait la société aujourd'hui. Elle se sent mourir et elle nie sa décadence, s'entourant de tous les mensonges, de sa richesse, de toutes les pompes vaines, d'une puissance qui s'en va. Elle affirme puérilement sa force. Et dans l'excès même de son trouble, elle se vante. Les privilégiés de la civilisation moderne ressemblent à cet enfant spartiate qui souriait en tenant caché sous sa robe le renard qui lui rongeait les entrailles. Ils montrent, eux aussi, un visage riant et s'efforcent d'être heureux, mais l'inquiétude habite dans leur cœur et le ronge. Le fantôme des révolutionnaires est de toutes leurs fêtes. La misère a beau ne frapper, loin de leur demeure, que des coups mesurés et silencieux. L'indigent a beau s'écarter du chemin de leur joie, il souffre de ce qu'il soupçonne ou devine. Si le peuple reste immobile, il se préoccupe amèrement de l'heure qui suivra. Et lorsque le bruit de la révolte est tombé, ils en sont réduits à prêter l'oreille au silence des complots. Je demande qui est réellement intéressé au maintien de l'ordre social tel qu'il existe aujourd'hui. Personne, non personne. Pour moi, je me persuade volontiers que les douleurs que crée une civilisation imparfaite se répandent en des formes diverses sur la société tout entière. Entrez dans l'existence de ce riche. Elle est remplie d'amertume. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'a pas la santé, la jeunesse et des flatteurs? Est-ce qu'il ne croit pas avoir des amis? Mais il est à bout de jouissance. Voilà sa misère. Il a épuisé le désir. Voilà son mal. L'impuissance dans la satiété, c'est la pauvreté des riches. La pauvreté moins l'espérance. Parmi ceux que nous appelons les heureux, combien qui se battent en duel par besoin d'émotion? Combien qui affrontent les fatigues et les périls de la chasse pour échapper aux tortures de leur repos? Combien qui, malades dans leur sensibilité, succombent lentement à de mystérieuses blessures et fléchissent peu à peu au sein même d'un bonheur apparent sous le niveau de la commune souffrance? À côté de ceux qui rejettent la vie comme un fruit amer, voici ceux qui la rejettent comme une orange desséchée.